101.5 FM.
C'est certainement dans l'ouest de la France que la Révolution a tué le plus de monde. Si la guerre de Vendée résonne aujourd'hui dans l'imaginaire collectif comme le thème principal du grand parc du Puy du Fou, il faut aussi savoir que cette guerre civile a éclaté à Saint-Florent-le-Vieil, en Anjou. Bienvenue dans cette nouvelle chronique de Clic-Clac-Topette sur Radio G qui accueille aujourd'hui Kylian Jonnet, un jeune historien local passionné des guerres de Vendée. Kylian, bonjour.
Bonjour à vous.
Tu es déjà venu sur l'antenne en juin dernier pour participer au quiz de fin d'année de Clic-Clac-Topette, mais aujourd'hui tu viens pour nous présenter ton nouvel ouvrage qui s'appelle
La mémoire des guerres.
Très bien. On s'intéressera d'abord à ce qu'il se passe dans cette pièce de théâtre qui aborde intelligemment la sombre année 1793. Puis dans une seconde partie, tu nous expliqueras comment est né ce projet et quelles difficultés as-tu rencontrées jusqu'à sa parution. Vous êtes bien sur le 101.5 FM, je m'appelle Pierre Benoît et on est ensemble pendant 15 minutes. Bon, c'est un plaisir de t'accueillir une nouvelle fois, mon cher Kylian. Je rappelle aux auditeurs que c'est avec toi que nous avions réalisé notre première vidéo de balade historique avec Cisco. Tu t'en rappelles ?
À Saint-Florent-le-Vieil.
Exactement. Comme à chaque fois, c'est ton thème de prédilection qui nous rassemble, les guerres de Vendée. Et cette fois-ci, tu passes une étape supplémentaire en signant une très belle pièce de théâtre autour des mémoires de guerre d'une angevine qui a vécu la terrible année 1793. Kylian, raconte-nous qui est cette Renée et qu'est-ce qu'elle a vécu ?
Alors en fait, je suis parti des mémoires de Renée de Pordereau, qui était originaire du village de Soulaines-sur-Aubance. Donc un village tout près d'Angers, à côté de Muray-Rigné. Et cette personne s'est engagée dès le début du conflit, donc dès mars 1793, au moment du soulèvement, pour venger, comme elle dira plus tard dans ses mémoires, les 42 personnes de sa famille qui ont été massacrées par les troupes républicaines. Donc de là, elle va rejoindre les principaux généraux qu'on connaît tous, donc Bonchamp, Lescure, Catelineau, etc. Et elle va suivre tout le périple de l'armée catholique et royale, donc de mars à décembre 1793. Mais elle combattra aussi en 1794, 95, 96 et plus tard sous Napoléon Ier.
Du coup, ces mémoires de guerre que toi tu as écrit, que tu as mis en forme de pièce de théâtre, c'est une mise en abîme d'un autre ouvrage, c'est celui de René Bordereau ou c'est un personnage fictif ?
Non, non, c'est vraiment c'est un personnage réel qui a vraiment existé, qui a vraiment combattu. Ça, on en est sûr à 100%.
D'accord.
Après, le seul problème, c'est que ces mémoires, elles ont été dictées.
Ouais.
En 1814. La véracité après de ses propos,
ouais,
ils sont pas vérifiables à 100%. C'est-à-dire qu'il y a des parties, on sait que ça pourrait potentiellement être vrai, et comme tous les mémoires, c'est pas une source historique valable en fait.
Valable, ouais. c'est assez subjectif comme toutes les mémoires de l'histoire. Quoi.
C'est pour ça que en tant qu'historien, on peut pas considérer des mémoires comme un document irréfutable,
oui,
d'un événement quelconque.
Mais c'est un support de travail en tout cas qui permet de témoigner, d'étudier une période historique dans tous les cas.
Oui, c'est un support d'imagination qui est quand même très riche, même si ouais, ces mémoires sont très courtes, elles font une soixantaine ou à peu près 70 pages. Donc c'est très très court pour brasser pratiquement 15 ans d'histoire.
Ouais.
Mais au niveau de l'inspiration, c'est quand même une mine d'or, je dirais, puisque elle est décrite à peu près ce qu'elle se souvient 15 ans plus tard.
Ouais.
Mais par derrière, nous, en tant qu'auteurs, on peut repartir de ça, remodeler un peu et créer une histoire qui découle de ce que ce personnage a pu vivre 200 ans avant nous.
Et c'est exactement ce que tu as fait, du coup, en lisant les mémoires de René Bordereau, de Soulaines-sur-Aubance.
C'est ça.
Et toi, tu les as mis, du coup, dans cette pièce de théâtre magnifiquement écrite. D'ailleurs, le récit s'ouvre directement en 1814, hein, sur l'échange entre René et l'écrivain qui recueille ses mémoires. Puis on voyage de scène en scène vers les grandes étapes du soulèvement avec d'autres personnages. Je pense notamment à Maline, recruté à Cholet, hein, celui qui va créer le trouble à Chenillé parmi la foule de paysans qui va un petit peu les monter contre les républicains qui sont prisonniers. Ça aussi, c'est vraiment arrivé, ce Maline, il existe vraiment ?
Non, en fait, ce Maline, c'est un personnage fictif que moi j'ai incorporé dans cette histoire-là.
Ouais.
Donc l'événement de Chenillé, c'était un événement qui s'est vraiment déroulé. Donc les soldats vendéens, devant les cadavres de leurs compagnons d'armes après la bataille de Chemillé qu'ils ont remporté haut la main,
ouais,
ont voulu massacrer les prisonniers républicains qui étaient enfermés dans l'église à Chemillé.
Donc ça, c'est vrai?
Ça, pour le moment, c'est la vérité historique en tout cas.
D'accord.
Et donc bon, cette histoire, elle est représentée dans le vitrail de l'église Saint-Pierre où Delbé va s'interposer en ordonnant qu'on récite un Pater Noster, donc le Notre Père, avant de les massacrer. Et puis avec un coup de génie, si je puis dire, il a obtenu la grâce de ses prisonniers républicains. Seulement le problème, c'est que est-ce que c'était la volonté d'un petit groupe de personnes ou carrément de l'armée tout entière ? Ça, on n'en sait pas vraiment ce qu'il en est. Donc moi, j'ai voulu incorporer un personnage qui allait représenter l'ensemble de l'armée, que j'ai appelé Maline. Donc Maline, son nom est inspiré du patois vendéen, qui veut dire en fait « grande marée ».
D'accord.
Pour symboliser justement ce débordement, cette vague qui arrive de haine et de violence, qui va se retrouver stoppée par la volonté d'un général qui, de par sa piété, qui était quand même grande, puisque Maurice Delbé était surnommé le pater des Vendéens, ça veut dire ce que ça veut dire, qui va être stoppée du coup. Et en fait, ce personnage de Maline, j'ai essayé de le remettre dans d'autres scènes aussi. Et on le verra évoluer plus tard.
Donc en fait, t'as créé un personnage un peu pour fixer le collectif vendéen et du coup les dérives et les tenants et les aboutissants de ce qui ont pu amener à ce genre de choses quoi. Pour notre pause musicale, Kylian, tu nous proposes d'écouter la chanson de Charette. Peux-tu nous rappeler très brièvement qui était Charette ?
Alors Charette, je pense que c'est le chef vendéen le plus connu de tout le conflit. C'est celui qu'on peut voir dans Le Dernier Panache au Puy du Fou. C'est le dernier chef vendéen à avoir été capturé puis fusillé à Nantes en 1796. Et donc la chanson qu'on va écouter là, c'était un de ses soldats qui l'a écrite à l'époque, qui avait été, on le suppose, chanté plus ou moins lors des derniers conflits qu'il avait pu faire.
D'accord, donc on écoute la chanson de Charette.
Défense de sa division, le soutien de la France va détruire la nation. Sapeurs et bombardiers, artillerie sont tous prêts à danser la symphonie. À l'entour de nos forces, nous avons pour certains des ennemis atroces qui nous narguent de loin. Nous pouvons nous vanter que ces mutins, nos heures ont abordé notre terrain. Ce complot général de ces républicains, de ce monde total veut battre les chrétiens. Mais son coup est manqué pour le certain, il se trouve éloigné de nos terrains. À Nantes l'on espère que vous verrez beau jeu, les chrétiens en colère vous feront voir des feux. En punition du mal et des forfaits, l'on vous prépare un bal, c'est pour jamais. Admirons la vaillance de Charette, homme de cœur, il est né pour la France, lui fait voir sa valeur. Regardez cette année, rien de plus beau, il y a palmé laurier dans les drapeaux. Quand tu vas à l'attaque, dites à ses commandants, mettez-vous en bataille et marchez sur l'Iran. Et en avant s'appellent ces bombardiers, ne craignez rien, courage canonnier. Voyez toute cette troupe, y'a rien de si charmant, Charette veut l'union de tous ses commandants. Il ordonne et prétend que dans la Vendée, que chaque commandant soit divisé. Qui a fait la chansonnette, c'est un jeune officier, la première compagnie de ces beaux grenadiers. Si elle est à votre gré, j'en suis content, et que chaque officier en fasse autant.
C'était donc la chanson de Charette. Toujours avec Kylian Jeunet, auteur de La mémoire des guerres aux éditions Amalthée. En lisant ton livre, je me suis dit qu'il t'avait fallu un incroyable talent de synthèse et de maîtrise de l'histoire pour parvenir à rendre les faits aussi clairs et humains qu'ils le sont dans ton ouvrage. Nous sommes réellement témoins des événements. Qu'est-ce qui fait que cette période historique te passionne tant, toi ?
Ce qui m'a attiré au départ, c'était plus le côté caché de ces événements-là, qui qui m'a interpellé en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'en parle pas aujourd'hui. Donc je m'y suis penché dessus avec ce que je pouvais avoir à l'époque, donc c'était les ressources internet principalement. Et en plus de ça, j'allais en vacances régulièrement en Vendée, du côté de Noirmoutier, donc j'étais baigné depuis plusieurs années dans cette histoire-là. Et au moment où je m'y suis intéressé, bon, j'ai commencé à regarder sur des pages Wikipédia ou des trucs comme ça. Et petit à petit, j'ai accroché à l'histoire. Et je m'y suis intéressé plus précisément dans des petites parties. Parce que les guerres de Vendée, c'est quand même assez large, ça brasse 4 ans principalement.
Ouais.
Donc j'ai commencé par m'intéresser à tout ce qui était bataille en 1793, après les colonnes infernales en 1794. Et voilà, encore aujourd'hui, maintenant, je me spécialise dans d'autres petits passages comme ça, historiques. Mais ce qui m'a attiré, oui, voilà, c'est le côté caché de l'histoire qui...
Le côté un peu de proximité territoriale, le côté donc, peu connu des gens, et puis une nécessité, quelque chose à exploiter, une mémoire à faire ressurgir, entre guillemets, hein, j'imagine.
Oui, parce que moi, déjà, je suis pas originaire de la Vendée militaire,
ouais.
Parce que de chez moi, la Vendée militaire, elle est à 40 km à peu près. Donc... Après, ça n'empêche pas d'avoir quelques traces de cette histoire-là dans le coin.
Ouais.
Mais oui, voilà, c'était... Je me sentais avoir le devoir, entre guillemets, de relancer un peu cette mémoire vendéenne qui était cachée. Bon, maintenant, elle n'est plus trop cachée aujourd'hui, parce que bon, Puy du Fou fait quand même un travail assez remarquable sur ce sujet-là. Il y a des quantités d'ouvrages assez impressionnantes maintenant, aujourd'hui. Mais c'était surtout témoigner de cette mémoire vendéenne, mais d'une autre manière que ce qui a déjà été fait. C'est-à-dire que je ne voulais pas refaire un livre historique très précis sur les guerres de Vendée en général, comme ça a déjà été fait, et très bien fait d'ailleurs.
Il t'a fallu combien de temps pour que vienne cette idée, et combien de temps surtout pour qu'elle se concrétise ?
Alors, j'ai commencé mes recherches début 2017. Donc, c'est pas venu tout de suite, puisque mes recherches, elles ont à peu près duré un an. C'est à peu près un an après que j'ai commencé à écrire La mémoire des guerres. Et ça s'est concrétisé aux fonctions de comment j'ai avancé dans mon écriture, en fait. C'est-à-dire qu'un soir, bon, j'avais pas plus envie que ça, ou j'avais pas trop d'inspiration pour travailler sur une bataille précise, ben, je me mettais à reprendre ce que j'avais commencé sur René Bordereau, puis je l'améliorais ou je complétais. Donc c'est à peu près une année de travail que ça m'a demandé. Et ça s'est concrétisé à peu près en janvier 2019, quand j'ai mis le point final à l'histoire.
D'accord. Ça a dû faire une drôle de sensation quand t'as eu le premier exemplaire en main, non ?
Ah oui, c'est à la fois la concrétisation d'un projet qui a quand même plus d'un an à ce moment-là. Parce que le premier exemplaire, je l'ai reçu en juillet de cette année.
Ouais.
Donc ça faisait déjà un an et demi que l'ouvrage était terminé. Donc c'était assez satisfaisant de se dire voilà, c'est fait, maintenant ça ressemble vraiment à un livre, c'est plus des pages A4 qu'on a imprimées.
C'est concret, quoi.
C'est concret.
Exactement.
C'est physique.
Avant de conclure cet échange, et puisque ce livre est écrit sous forme de pièce de théâtre, est-ce que tu as prévu ou est-ce que tu as été contacté par des metteurs en scène pour faire monter sur les planches ces personnages-là qui sont dans ton livre ?
Alors, j'ai eu un contact il n'y a pas très très longtemps pour potentiellement monter le projet.
Ouais.
Donc, ce sera à voir par la suite. Après, je m'y suis pas trop penché pour le moment, parce que je préférais faire paraître l'ouvrage et après voir pour la faire jouer.
Éventuellement, un dernier mot pour convaincre les auditeurs de Radio G d'offrir ton livre à Noël. Déjà, où est-ce qu'ils peuvent le trouver ?
Alors, c'est principalement sur Internet, donc toutes les grandes plateformes style Amazon, la Fnac.
Ouais.
Après, les librairies, des librairies indépendantes. Donc, toujours sur Internet, nous avons la librairie Richer à Angers, qui est quand même une référence assez importante pour nous Angevins. En physique, vous pouvez le trouver à Saint-Florent-le-Vieil, dans la petite librairie de la Grand-Rue, à la Maison de la Presse des Herbiers et à la librairie Thuard au Mans. Dans la région, il y a de quoi le trouver assez facilement.
Merci Kylian d'être venu chez Clic-Clac Topette. Tu as donc écrit La mémoire des guerres aux éditions Amalté, disponible dans tous les points de vente que tu viens de citer et en ligne. Je mets le lien sur le podcast et les réseaux de Clic-Clac Topette. Je pense qu'on aura l'occasion de se recroiser très prochainement pour un projet éventuel, ou que sais-je. C'est fini pour aujourd'hui, on vous laisse avec le programme musical de Radio G, et on se retrouve lundi à 13h dans 2 semaines. Prenez soin de vous, Topette !
Topette ?